Les marchandes de sable, spécial Halloween, 13 contes et récits d'Halloween de Françoise Rachemaule. L'ivrogne et le squelette, conte d'Espagne. Juan était connu pour son ivrognerie dans tout le village, et plus d'un villageois plaignait sa femme, la pauvre Maria. Quand il avait bu, il ne connaissait plus ni Dieu, ni diable, ne respectait personne, faisait n'importe quoi. Un soir de beuverie, il sortit de l'auberge avec deux compagnons. Ils avançaient en zigzagant et en poussant de grands éclats de rire. C'était le soir de la Toussaint. Vous savez qu'à cette époque de l'année, tous les chrétiens pensent à leurs parents défunts et prient pour eux. En Andalousie, dans les cimetières, se trouve toujours un ossuaire, c'est-à-dire une chapelle dans laquelle sont conservés les ossements des gens morts depuis longtemps. Là sont entassés tous les os qui composent un squelette, souvent disloqués, les tibias d'un côté, les côtes de l'autre et les crânes à part. Le soir de la Toussaint, près de l'ossuaire, on dresse une table. On y aligne des crânes. Les gens qui viennent dans le cimetière pour honorer leurs défunts s'inclinent tous devant cette table. Ce soir-là, nos trois ivrognes arrivèrent en chancelant devant le cimetière. « Si l'on entrait, » dit l'un. « Pour faire une blague, » dit l'autre. Et le troisième, le plus ardu, qui était Juan, s'adressa en riant à l'un des crânes sur la table. « Hé, toi, le tondu, je t'invite à ma table à moi. Viens dîner à la maison si tu es capable de bouger. » Puis, ayant ri tout leur content, les trois hommes se séparèrent et chacun rentra chez soi. Juan ronflait à côté de sa femme, dans le grenier qui leur servait de chambre à coucher. Voilà qu'au milieu de la nuit, il se réveilla en sursaut. Il avait entendu frapper à sa porte. Il secoua sa femme. « Maria ! Maria, tu entends ?» À ce moment, une voix cria distinctement en bas, devant la maison. « Ouvre ! Je suis ton invité !»« Comment ?» dit Juan à Maria. « Tu as invité quelqu'un ?» Sans me le dire, et il arrive à cette heure-ci. Je n'ai invité personne, c'est plutôt toi. Moi ? Bien sûr que non. Alors, qui est-ce ? Vas-y, descends, va ouvrir. Non, c'est toi l'homme, c'est à toi de descendre et de voir qui est là. Bon, j'y vais. Quand Juan ouvrit la porte, un squelette se présenta. Sans doute était-il parvenu à rassembler tous ses os, y compris le crâne, car il paraissait complet. « Je suis celui que tu as invité ce soir, » déclara-t-il. « Ah, entre !» bredouilla Juan, qui n'en menait pas large. « Maria, arrive, donne-lui à manger, ce que tu trouveras. » Maria descendit du grenier par l'échelle et s'empressa de servir le squelette, non sans faire de nombreux signes de croix. Les paysans n'étaient pas riches en ce temps-là. Ils se nourrissaient de pommes de terre et de marrons. Maria donna aux morts une grande écuelle de purée épaisse à laquelle il ne toucha pas. Les morts ne mangent pas. Au bout d'un moment, il se leva et dit à Juan « C'est à mon tour de t'inviter. Viens demain, à la même heure. Je t'attendrai à l'endroit où tu m'as trouvé. » Dès qu'il fut parti, Juan raconta à sa femme ce qui s'était passé au cimetière. « J'avais bu, j'ai eu tort. J'ai honte de ma conduite. Crois-tu que je dois obéir au squelette ?» « Ce n'est pas à moi que tu dois te confesser, mais au curé. Demain, nous irons le voir. » Le curé conseilla à Juan de se rendre au rendez-vous fixé par le mort. Il ajouta « Mais par mesure de précaution, prends une croix avec toi. N'oublie pas. » Le lendemain, au milieu de la nuit, Juan, une croix à la main, partit au cimetière. Cette fois, il n'avait pas bu et il ne faisait pas le fier. Le squelette l'attendait derrière la grille et le conduisit à la table, à côté de l'ossuaire, en lui disant « Je n'ai pas pu manger chez toi. Tu ne mangeras rien chez moi. Sans ce que tu portes à la main, tu ne sortirais pas d'ici. Mais tu es protégé. Maintenant, tu sauras qu'il faut respecter les morts et ne jamais se moquer d'eux. Tu peux t'en aller. » Juan partit sans demander son reste. Il crut qu'il s'en tirerait à bon compte. Il allait à nouveau pouvoir rire et chanter. Mais il ne boirait plus jamais, promis, juré. D'autant plus qu'il avait l'estomac barbouillé. Il se sentait glacé jusqu'aux os. Le lendemain, il fut malade. Le jour suivant, le squelette revint pour le prendre et cette fois, Juan mourut. Le fiancé vampire, conte roumain. Bonne comme le pain, blonde comme le blé, telle était Ileana, c'est-à-dire Hélène. Elle portait même natte et même prénom que la princesse des contes de fées, Ileana Cosinzana, dont tous les Romains connaissent l'histoire. Là, pourtant, s'arrêtait la ressemblance. Ileana, la paysanne, ne vivait pas dans un palais, par-delà les neuf terres, par-delà les neuf mers. Elle habitait une petite maison de bois avec ses parents dans la plaine de Moldavie. Dès l'aube, après avoir dit sa prière, elle se mettait au travail. La maison étincelait de propreté, et pour les pauvres affamés ou pour les animaux blessés, sa porte était toujours ouverte. Mais ce qu'elle préférait, c'était de s'occuper du poulailler. Poules et poussins chantaient ses louanges. Le coq lui-même, si orgueilleux, reconnaissait qu'elle prenait même grand soin d'eux. Non loin de là, sur la pente de la montagne, vivait Yon le berger, c'est-à-dire Jean. Il logeait dans une cabane près de la grande forêt de hêtres et de sapins, où l'on entend, au printemps, les coucous, en hiver, les loups. Il ne descendait au village que pour y vendre ses fromages. Alors, pour lui, c'était la fête. Sa pelisse en peau de mouton, sa tête ébouriffée sous la toque, l'odeur de soin qui l'imprégnait le faisait ressembler à l'une de ces bêtes. Une bête endiablée, en vérité, car personne ne savait comme lui boire, danser et chanter. Il avait une belle voix de basse, et quand il entonnait la fameuse chanson d'amour « Si je songe à ma bien-aimée, mon cœur ardent brûle et je pleure », il ne pleurait pas du tout. Ses dents riaient sous sa grosse moustache noire et plus d'une fille rêvait d'être chatouillée par cette moustache-là. Même la sage Ileana avait remarqué le berger. Un dimanche d'été, comme elle sortait de l'église, les yeux baissés, elle ne put s'empêcher de couler un regard vers celui qui conduisait la ronde sur la place du marché. Lui cessa de danser en découvrant combien soudain le joli visage et les tresses blondes. « Ileana Cosinzana !» s'écria-t-il. « Tu es la belle aux tresses d'or !» Voilà comment ces deux-là s'aimèrent. L'eau et le feu se rencontrent parfois. Ils devaient se marier à l'automne suivant. Là-haut, dans la bergerie, ils vivraient pauvrement dans la solitude, se nourrissant de fromage blanc, de bouillie de maïs et d'eau claire. Mais Ileana ne s'en souciait pas. Elle aurait son berger, ainsi que ses poules, qu'elle comptait emmener avec un coq pour avoir des poussins au printemps. Seulement, un soir, au village, en l'honneur de son futur mariage, Yon but un peu trop de petits verres de tuica, cette eau-de-vie de prune qui monte si fort à la tête. Quand il voulut rentrer chez lui, il s'égara dans le brouillard, prit un rocher pour sa maison, l'escalada, tomba dans le torrent en contrebas. On retrouva son corps 3 jours plus tard. Sans prendre la peine de l'emporter au cimetière, on l'enterra à l'endroit même, sous les racines d'un sapin. Ileana se désola. Adieu la vie, adieu la joie, adieu l'amour. Pourtant, Yon n'était pas mort. Il était devenu vampire, strigoï, comme disent les Romains. Il était condamné à errer la nuit jusqu'au chant du coq, en quête d'un peu de sang à boire. Si, à cette époque, les strigoïs étaient nombreux, de leur côté, les paysans savaient se protéger. Ils frottaient portes, fenêtres, cheminées et même les trous des serrures avec du jus d'ail pressé ou bien avec de l'eau bénite. Tout le monde sait que l'ail, l'eau bénite et le signe de la croix ont le pouvoir d'éloigner les monstres. Ah non, elle n'était pas facile, la prévie d'un vampire en ce temps-là. Selon la mauvaise habitude des strigoïs, Yon s'attaqua d'abord à celle qu'il avait le plus aimée, c'est-à-dire Ileana. Il attendit que ses parents, appelé par une tante malade, se soit éloigné pour s'approcher de la maison. Mais il ne pouvait pas entrer. La demeure était propre et sanctifiée par la prière. Or, les vampires ne se plaisent que dans la saleté, le désordre et le péché. Ileana s'apprêtait à se coucher. Après avoir éteint sa chandelle, elle récitait son chapelet. Elle s'interrompait souvent pour songer à son bien-aimé. Elle se désolait surtout à l'idée qu'il était mort en état de péché et n'avait pas de tombe au cimetière. Comment Dieu aurait-il pu l'accueillir au paradis ? À ce moment, elle entendit frapper un coup léger à la fenêtre, se retourna et le vit. C'était bien lui derrière la vitre. Elle reconnaissait ses yeux luisants sous la toque et sa grosse moustache noire. Comme son visage était pâle ! Elle entendit sa voix de basse prononcée avec la même autorité qu'autrefois. « Viens, fillette, viens avec moi. » Alors, sans hésiter, sans réfléchir, telle qu'elle était, pieds nus, en chemise de nuit et le chapelet dans sa poche, elle ouvrit la porte et se jeta dans ses bras. Il la saisit d'une main de glace et l'entraîna à travers champs, vers la montagne. Il répétait « Viens donc, fillette, marche plus vite. » « Dépêche-toi !» C'était l'hiver. La neige couvrait la campagne. Pas un bruit, si ce n'est, dans le lointain, le hurlement des loups. Iliana tremblait des pieds à la tête, à la fois de peur et de froid. Enfin, ils arrivèrent devant le trou béant, sous le sapin qui avait servi de tombe aux vampires. C'était là qu'il la conduisait. Elle comprit tout et lui dit, d'une voix timide, « Passe devant, Ion, je t'en prie. » Il fait si noir là-dessous, tu me montreras le chemin. » Il la savait amoureuse et naïve. Sans se méfier d'elle, il lâcha sa main et s'enfonça sous les racines. Elle s'écria « Oh, j'ai perdu mon chapelet, il vient de se casser, je dois en retrouver les grains. » Le temps qu'il comprenne les mots et se retourne, Iliana avait fui. Iliana courait à perdre haleine. Elle dégringola la pente. Elle parvint dans la plaine, le Strigoï derrière elle. Où aller ? Tout était blanc sous la lune, pas de traces de sentier. Assis, tout près, sous sa toiture de neige, s'élevait une chaumière. Une lumière y vacillait. Iliana s'y précipita, eut le temps de fermer la porte, d'y accrocher son chapelet et de tirer les verrous. Deux précautions valent mieux qu'une. Ensuite, elle regarda autour d'elle. Elle se trouvait dans un pauvre logis. Sur un lit de planches, un vieil homme était étendu, les mains jointes sous un drap. Il était mort. Une chandelle brûlait à son chevet. Dans un coin, un tas de plumes gisait, immobile. C'était d'un coq et une poule, blottis l'un contre l'autre. Les humains et les animaux dormaient ensemble pour se tenir chaud. Au centre de la pièce se dressait un énorme poêle de faïence. Le feu était éteint, pourtant sa paroi était encore tiède. Iliana se glissa derrière lui, s'y tapit, pour échapper au regard du Strigoï qui déjà frappait à la fenêtre. Elle ne pouvait pas le voir, mais elle l'entendait appeler le gisant. « Mort ! Rends-moi la vivante ! Elle se cache ! Je sais qu'elle est là !» Et voici que le mort ouvrit les yeux et souleva sa tête, lentement. Iliana s'en aperçut. Épouvantée, elle se mit à réciter ses prières, toutes les prières qu'elle connaissait. Le vampire continuait, frappant un coup redoublé sur la vitre. « Mort ! Rends-moi la vivante ! Elle m'appartient ! De son plein gré, elle est venue à moi !» Le mort redressa son buste maigre, le drap glissa. Iliana marmonnait ses prières à toute vitesse, en s'embrouillant un peu. « Mort ! Rends-moi la vivante ! Ouvre la fenêtre, que je la prenne ! Elle est à moi !» Le mort descendit de son lit de planches et fit un pas. Iliana était perdue. Dieu ne l'entendait-il pas ? Cependant, dans le coin de la pièce où elle était couchée, la poule ne dormait plus. Arrachée au sommeil par les coups et les cris, elle secouait le coq. « Réveille-toi, réveille-toi ! Iliana, l'amie des bêtes, la protectrice des poulets, Iliana est en danger. Si tu chantes ton cocorico, le vampire croira le jour venu et s'en ira. »« Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas l'heure, laisse-moi dormir. »« Réveille-toi, réveille-toi ! » Mais le coq avait mis la tête sous son aile et n'écoutait pas. Le mort, lui, se dirigeait à pas lourds vers la fenêtre où tempêtait le Strigoï. La poule alors prit une résolution héroïque et pour la première et seule fois de sa vie, oubliant ses caquetages et ses gloussements, lança le cocorico le plus sonore que l'on ait jamais entendu sur la terre de Roumanie. Le coq, surpris et même un peu honteux, accepta de se joindre à elle et ce fut un beau concert. Le Strigoï s'était enfui. Le mort retourna dans son lit et la petite Iliana osa sortir de sa cachette. Elle rentra chez elle, accompagnée par la poule qui l'avait sauvée. Le coq marchait dignement derrière elle. Pour avoir la certitude d'être à jamais délivrée du vampire, Ileana alla trouver une vieille qui connaissait les formules pour conjurer tous les dangers. En sa présence, la jeune fille récita 3 fois l'incantation suivante. Un grand homme rouge a tiré du lait rouge du pied d'une grande vache rouge. Il est allé au marché rouge. Il a crié « Lait rouge !» Les vampires, les strigoïs, les jeteurs de sorts se sont précipités. Chacun, dès qu'il a bu le lait, a eu son cœur, son foie crevé. Ileana est restée pure et brillante, comme l'étoile du ciel, comme la rosée des champs, comme sa mère l'a mise au monde. La vieille ensuite lui fit avaler un mélange de 3 pétales de pivoine séchée avec un œuf pondu par une poule noire, un samedi, au coucher du soleil. Depuis, Yon, le strigoï, n'a pas reparu. Et pour cause. Les hommes du village, sachant ce qui était arrivé à Ileana, allèrent déterrer le cadavre du berger. Avant de le brûler, ils enfoncèrent un pieu dans son cœur, car c'est ainsi qu'en Roumanie, on se protège des vampires. Ileana continua tranquillement à soigner ses poussins et ses poules. Et le dimanche, en sortant de l'église, elle traversait la place où tournaient filles et garçons. Parfois même, elle s'arrêtait pour jeter un regard sur celui qui menait la danse. Mais il ne chantait pas d'une belle voix de basse et n'était pas berger. Conversation avec une momie. Récit. Non, non et non. Tant pis pour la prof d'histoire. Je la saurai pas, ma leçon, s'écria Antoine en se dressant sur son lit et lança à la volée son livre à travers la chambre. Le livre resta ouvert à la page où était représentée la momie de Thoutmôsis III, le conquérant. J'ai trop sommeil. J'éteins ma lampe. C'est la faute aux pharaons. Ils ont des noms pas possibles. Tout en camion, Ameno. Ameno quoi ? Et tout moisi ? Non, Thoutmôsis. Et les momies, ça m'ennuie. Elles sont vieilles, elles sont laides, avec des figures noires pleines de grimaces. Tiens, ça me donne une idée. Je sais en quoi je vais me déguiser pour Halloween. En momie, avec des bandages partout, une tête de mort, pour faire peur. Peur aux gens. Les momies ne font pas peur aux gens, prononça près d'Antoine une voix profonde et solennelle. Le petit garçon, étonné, vit se déployer au-dessus de son lit une haute silhouette, enveloppée dans un linceul immaculé, maintenu par des bandelettes. À l'emplacement du visage était posé un masque d'or, se terminant par une étroite barbe tressée et surmontée par une coiffure à larges pans, incrustée de bandes d'émail d'un bleu vif. Les 2 bras croisés sur la poitrine tenaient la crosse et le fouet, emblème de la souveraineté suprême. « D'abord, qui êtes-vous, vous ?» balbutia Antoine. « Je suis le pharaon Thoutmôsis III, » répondit majestueusement le personnage. « Tout moisi !» s'exclama étourdiment Antoine. « Oh, pardon, vous avez des noms si compliqués. »« Sais-tu, jeune insolent, que tes livres me nomment le Napoléon égyptien ? Sais-tu que j'ai conquis pour mon pays des territoires immenses, du Soudan aux rives de l'Euphrate ? Le sais-tu ?» Le pharaon fit une pause, comme pour renforcer l'effet de ses paroles. « Eh bien moi, » marmonna Antoine, qui retrouvait son assurance, « j'ai été premier à la course à roller et j'ai marqué 2 buts pour mon équipe de foot. J'en fais pas toute une histoire. » Sans lui prêter attention, Thoutmôsis poursuivit d'un ton pompeux. « À la tête de mes armées, sur mon char de guerre, j'ai franchi des rivières, j'ai traversé des déserts et j'ai vaincu mes ennemis. » J'ai administré des provinces, j'ai courbé la tête des princes, j'ai vu des peuples entiers trembler au seul énoncé de mon nom. Ah bon ? Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre ? J'ai fait dresser des obélisques, j'ai fait construire des temples, j'ai fait creuser mon hypogée. Votre hypo... quoi ? Mon tombeau souterrain, si tu préfères. De mon vivant, pour accomplir ces travaux gigantesques, j'ai commandé des milliers d'hommes. J'ai... de votre vivant... « Ça veut dire que vous êtes mort ?»« Ne m'interromps pas constamment. Je suis mort, en effet, depuis 3500 ans. Mais en réalité, je suis vivant au royaume du dieu Osiris, le seigneur de l'éternité. »« Osiris, celui-là qui a été coupé en morceaux par son méchant frère et sa femme Isis l'a retrouvé et recousu ?» La prof nous a raconté son histoire. « Ce n'est pas tout à fait exact. Certes, Isis a usé de son pouvoir de magicienne. » Mais c'est Anubis qui a reconstitué le corps et l'a embaumé pour le transformer en momie. La première momie au monde. Anubis, qui c'est déjà ? J'ai oublié. Anubis est le dieu à tête de chacal qui connaît les secrets de l'embaumement. Il conduit les âmes au pays d'où l'on ne revient pas. Grâce à ses bons soins, Osiris a été ressuscité pour régner sur le royaume des morts. Alors vous aussi, vous êtes une momie ? Mais qu'est-ce que vous venez faire ici, dans ma chambre ? Permission m'a été donnée de franchir les siècles jusqu'à toi, jeune homme. Tu as les idées les plus ridicules et les plus grossières sur les momies. Je veux t'apprendre à les connaître et à les respecter. Sache, ignorant, avec quel soin méticuleux, quelle religieuse précaution, mon corps d'homme a été transformé en momie. Chic, c'est juste ma leçon. Je vais pouvoir l'apprendre avec vous. Silence ! Après ma mort, on m'a d'abord transporté dans un bâtiment spécial, la belle maison. Là, un prêtre au visage caché par le masque d'Anubis m'a retiré mon cerveau et plusieurs de mes organes, sauf mon cœur. Aïe, aïe, ça a dû faire mal. Mais non, jeune sot, puisque j'étais mort. Où en étais-je ? Ah oui. On m'a nettoyé ensuite avec du vin de palme et on m'a saupoudré de natron, une sorte de sel qui déshydrate les chairs. Quand j'ai été complètement desséché, on m'a lavé à l'eau du Nil, on m'a enduit de résine, on m'a frotté avec de l'huile de cèdre et des aromates. Ces aromates sont si puissants que tu peux encore aujourd'hui en respirer l'odeur. La momie se pencha vers Antoine, qui parvint à sentir le très faible parfum venu des siècles lointains. Thoutmôsis se redressa et continua. Pour finir, on a enveloppé de bandelettes chaque partie de mon corps et il a fallu pour cela démettre et démettre d'une toile de lin si fine qu'elle en était transparente. Toutes ces opérations ont demandé 70 jours. 70 jours, te rends-tu compte ? Combien vous faut-il de temps, à vous, pour enterrer vos morts ? Tu peux comparer. À chaque étape de la momification, les prêtres récitaient des incantations et glissaient des amulettes contre mon corps. C'est quoi des amulettes ? Ne m'interromps pas tout le temps, c'est agaçant. Une amulette est un petit objet symbolique qui fait du bien à ceux qui le portent. Par exemple, le pilier Djed aide le mort à se redresser et la croix Ankh lui donne le souffle de vie. Ah, j'ai compris. Vous expliquez bien, mieux que la prof. N'est-ce pas ? Dit Thoutmôsis en se rengorgeant. C'est comme moi, j'ai toujours une bille bleue au fond de ma poche, ça porte bonheur. Alors c'est ça mon amulette ? C'est la sœur de Kevin qui me l'a donnée. Oh zut, j'ai encore été trop bavard. De mon temps, les enfants n'auraient pas osé parler devant un pharaon. Enfin, passons à autre chose. Bien que tu ne sois qu'un bavard, moi aussi je veux te faire un cadeau. La momie décroisa les bras, laissa tomber la crosse et le fouet et fouilla sous ses bandelettes. Regarde, c'est un scarabée de cœur. Il est en pierre verte. D'un côté, il figure l'insecte, de l'autre, il porte une inscription avec mon nom, dans l'écriture sacrée des hiéroglyphes. Je te le donne. Oh merci, ça va épater les copains. Je le prêterai aussi à la prof. Ah non, ne le prête à personne. Garde-le toujours sur toi. Il te servira plus tard. Le scarabée symbolise le soleil levant. Il aide les hommes à renaître. Alors je vais le mettre dans la poche de mon pyjama. C'est drôle qu'un scarabée symbole soit le soleil, quoi. Oh, j'ai encore parlé. S'il vous plaît, continuez. Qu'est-ce qui se passe après la pose des bandelettes ? Eh bien, la momie est enfermée dans un cercueil de bois peint et doré avec le portrait du mort. Ensuite, on place le cercueil dans un sarcophage de pierre. Comme j'étais un grand pharaon, j'ai eu droit à 140 amulettes, 3 cercueils recouverts d'or et sur mon sarcophage, l'image de la déesse Nout, les ailes déployées. Mais est-ce que je peux encore poser une question ? Je ne comprends pas pourquoi vous vous donnez tant de mal pour faire des momies. À quoi ça leur sert, les momies, aux Égyptiens ? Ce serait long à t'expliquer. Viens avec moi, nous allons remonter le temps. Nous serons invisibles pour assister aux funérailles d'un grand personnage et nous entrerons avec lui dans le royaume d'Osiris. Tu comprendras alors le rôle joué par les momies. As-tu le scarabée que je t'ai donné ? Bien, il te protégera pendant le voyage. Thoutmôsis tendit à l'enfant sa main sèche enveloppée de toile. Antoine hésita un instant, mais il trouvait le pharaon de plus en plus sympathique et bravement, il posa sa main dans celle de la momie. En un clin d'œil, ils furent transportés dans la ville de Thèbes, sur les bords du Nil en l'an 1450 avant Jésus-Christ. Le fleuve était couvert d'embarcations et sur ses berges se pressait une foule bariolée. Elle paraissait attendre. Enfin, un bateau se détacha de la rive droite, celle où s'étageaient les palais. C'était une barque actionnée par de nombreux rameurs, plus grande que toutes les autres et d'un luxe extraordinaire. Elle transportait un sarcophage et se dirigeait vers l'autre côté du Nil, à l'ouest. « C'est mon sarcophage, » confia Toutmosis à l'enfant. « À vrai dire, je ne suis pas fâché d'assister à mes propres funérailles. » Il se mit à rire, d'un rire aigrelé, comme à l'idée d'une bonne farce. « Je regarderai les visages et je saurai si mes familiers sont aussi désolés qu'ils le prétendent. Vois-tu, il n'est pas facile pour un pharaon de connaître les sentiments véritables des gens de son entourage. Mais approchons. Voyons ce qui se passe. » Au fond, se dit Antoine, la vie de pharaon, ça ne doit pas être si amusant que ça. Le bateau avait abordé la rive gauche, là où s'étendait la cité des morts. On avait posé le sarcophage sur un traîneau. Tiré par des bœufs aux cornes aiguës, il avançait lentement vers l'hypogée que le pharaon avait fait creuser. Dans les vapeurs de l'encens, deux femmes représentant les déesses Isis et Nephthys, puis les prêtres, la famille, les conseillers, les courtisans, accompagnaient la dépouille mortelle. « Regardez celle-là, » remarqua Antoine en tirant Toutmosis par le bras. « Elles ont l'air d'avoir du chagrin pour de bon. » Il désignait un groupe de femmes vêtues de longues robes transparentes, échevelées, les bras au ciel, poussant ensemble d'harmonieux gémissements. « Penses-tu ? Ce sont les pleureuses. Elles sont payées pour cela. » Cependant, le cortège était arrivé à destination. Une fois le sarcophage dressé à l'entrée de la chapelle, le fils aîné du pharaon procéda, selon l'usage, à l'aide d'un large bâton, à l'ouverture des yeux et de la bouche du mort. « Ah, j'aperçois le visage de mon fils !» fit le pharaon pensif. « Il est sérieux. Il semblait mu. Se pourrait-il qu'il me regrette ? Qu'est-ce qu'il a fait au sarcophage avec son bâton ? J'ai pas compris. Cette cérémonie permet aux morts de retrouver le souffle de la vie. Il ressuscite, en quelque sorte, comme Osiris, et connaît une seconde existence. Mais il ne peut le faire que si son corps a été momifié. Tu comprends pourquoi, à nos yeux, les momies sont si importantes ? Sans elles, pas de renaissance possible. Chut ! Laisse-moi écouter la reine, ma première épouse, prononcer mon éloge funèbre. Que dit-elle ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas cela, elle se trompe. Elle récite ce qu'on lui fait dire. Ah, si j'étais encore vivant, comme je la ferais taire. Allons-nous-en, j'en ai assez vu. Je sais par cœur ce qui va suivre. Mais pas moi, je veux rester, c'est bien mieux qu'à la télé. Bon, quelques minutes alors. Tu vas voir, on va sacrifier un bœuf, on va le manger avec des agneaux, des volailles, des pains d'orge, de la bière et du vin. On va servir le mort à sa table d'offrande, pendant que les danseurs danseront, que les musiciens feront de la musique et que le harpiste aveugle chantera au son de son instrument les plaisirs de la vie. Verse du parfum sur ta tête, habille-toi de lin, sois joyeux, ne permets pas que ton cœur s'attriste. Ça veut dire que les gens s'amusent. C'est comme à l'enterrement de l'oncle Arthur. Moi, j'ai drôlement bien joué avec mon cousin. Tiens, qu'est-ce qu'on a fait du sarcophage ? Je ne le vois plus. On l'a descendu au fond de l'hypogée, par des couloirs secrets, jusqu'à la chambre d'or, la demeure des millions d'années. Bref, la tombe. À côté du sarcophage, pour que le mort conserve ses habitudes, on a déposé ses meubles, ses armes, ses jeux et une véritable armée de petits serviteurs de faïence qui accomplissent à sa place toutes les corvées. Car la seconde vie ressemble à la première. On y mange, on y joue, on y travaille, mais bien sûr, on ne souffre pas et on ne meurt jamais. Ça doit être agréable d'être mort dans votre pays. Vous croyez que les petits serviteurs peuvent faire des devoirs et apprendre des leçons ? Sans doute. Alors je pourrai en avoir quand je serai mort ? Mon cher enfant, tu t'imagines que le mort, une fois dans son tombeau, est au bout de ses peines ? Tu te trompes. Accompagné de son âme, le mort doit accomplir un long trajet dans l'au-delà, sur la barque funèbre, et subir toutes sortes d'épreuves. Des épreuves ? Comme dans le jeu Donjons et Dragons ? Oh, racontez ! Il doit affronter des monstres, des serpents, un chat, des esprits. Il doit passer des portes. Il doit, sans se tromper, et cela c'est le plus difficile, donner les noms des portes, des gardiens, des gardiens des châteaux, des 42 démons, des 156 aspects différents d'Osiris. Heureusement qu'il a avec lui le livre des morts qui lui sert de guide. C'est comme à la fête foraine. J'y suis allée avec mon grand-père. Il y avait un jeu de piste avec des monstres. Oh là là, ce qu'on a eu peur. On s'est bien amusé. Pauvre grand-père, c'était la dernière fois. Vous savez, vous lui ressemblez un peu. Soyez gentil. Amenez-moi avec vous chez Osiris. Peut-être que je retrouverai mon grand-père avec les autres morts. Mais attends, je n'ai pas terminé. Il reste la dernière épreuve, la plus terrible. Quand le mort arrive dans la salle du jugement, en présence des dieux, on pèse son cœur sur la balance de la justice. Si ses mauvaises actions l'emportent sur les bonnes, la grande dévorante à tête de crocodile se jette sur lui et il meurt. C'est une deuxième mort, définitive, sans aucun espoir de résurrection. C'est affreux, rien que d'y penser. Même les plus grands pharaons, tels que moi, sont intimidés lorsqu'ils entrent dans la salle du jugement. C'est vrai ? Je veux tout de même y aller. Dites, vous m'emmenez ? Dites. Toutmosis ne répondit pas, mais soudain, le décor changea. Antoine se retrouvait seul, derrière un pilier, dans une pièce immense. Il tenait contre sa poitrine son scarabée de cœur. Son guide, le pharaon, avait disparu. Une foule de divinités, plus bizarres les unes que les autres, remplissaient la salle. Au centre se dressait une gigantesque balance. Derrière elle, dans la pénombre, siégeait Osiris, encadré par ses deux sœurs, Isis et Nephthys. Devant la balance, Maat, la déesse de la justice, invitait un pauvre mort momifié à s'approcher. La momie marchait à pas lents. Elle était un peu voûtée, avec un air bienveillant, qui rappela à Antoine son grand-père. Il eut du mal à reconnaître en elle le majestueux Toutmosis. Pourtant, c'était bien le pharaon, et il commença immédiatement, d'une voix mal assurée, sa déclaration d'innocence. « Je n'ai pas commis d'injustice envers les hommes. Je n'ai pas fait ce qui est abominable aux dieux. Je n'ai pas affamé. Je n'ai pas affligé. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas faussé le poids de la balance. Je n'ai pas retiré le lait de la bouche des petits-enfants. » Alors Maat prit le cœur du pharaon, le déposa dans un plateau et mit dans l'autre une plume qui ornait sa chevelure de déesse. Les deux plateaux s'équilibraient parfaitement. Il est sauvé, il est justifié, il deviendra un nouvel Osiris, crièrent tous les assistants. Toutmosis se redressa, sauta en l'air et esquissa une pirouette. Les dieux semblèrent devenir fous. Anubis chacal aboya, Toth Ibis claqua du bec. Horus Faucon déploya ses ailes et la dévorante ferma d'un coup sec ses mâchoires de crocodile. Un véritable tourbillon de couleurs et de bruits parut emplir l'espace jusqu'au moment où s'éleva un son aigu, strigant, strident, continu, impérieux, et Antoine s'éveilla, étonné de se retrouver sous ses couvertures et de devoir arrêter son réveil. Il fallait se lever, aller en classe et répondre à l'interro d'histoire. Sans doute connaissait-il un peu mieux les momies. Mais pouvait-on se fier à un rêve ? Comme il sortait une jambe de son lit, il sentit quelque chose de dur dans la poche de son pyjama. Il en tira un scarabée en pierre verte, au dos couvert de hiéroglyphes. Alors, Antoine sut qu'il n'oublierait jamais le pharaon Toutmosis III, qui était un grand conquérant et qui, en même temps, ressemblait à son grand-père.